Stephen King, Misery, traduit de l'anglais par William Desmond. Je dédie ce livre à Stéphanie et Jim Leonard, qui savent pourquoi. Oh oui, ils le savent. Déesse, Afrique. J'aimerais exprimer toute ma reconnaissance à trois professionnels de la médecine pour l'aide précieuse qu'ils m'ont apportée dans tout ce qui touche au fait matériel de cet ouvrage. Il s'agit de Russ Dorr, aide médicale, Florence Dorr, infirmière, Janet Ordway, psychiatre. Comme toujours, elles ont attiré mon attention sur ces détails que l'on ne remarque jamais. Toute erreur grossière serait de mon fait. Le Novril, évidemment, n'existe pas. Mais on trouve des médicaments similaires à base de codéine. Il arrive malheureusement que les pharmacies des hôpitaux et des dispensaires fassent preuve d'un certain laxisme dans la gestion et la mise sous clé de ces produits. Première partie. Annie. Quand tu regardes en l'abîme, l'abîme aussi regarde en toi. Friedrich Nietzsche. Numéro 1. Fide. Mira. Numéro 1. Ses sons, même dans la brume. Mais parfois les sons, comme la douleur, s'estompaient. Et il n'y avait plus que le brouillard. Il se souvenait des ténèbres. Ténèbres compactes, qui avaient précédé la brume. Cela voulait-il dire qu'il faisait des progrès? Que la lumière soit, même du genre brumeux, car la lumière était bonne, et ainsi de suite. Ces sons, avaient-ils existé dans les ténèbres? Il ignorait la réponse à ces questions. Cela avait-il le moindre sens de les poser? Même à cela, il ne pouvait pas répondre. La douleur rôdait quelque part en dessous des sons. Elle gisait à l'est du soleil et au sud de ses oreilles. C'était là tout ce qu'il savait. Pendant une durée de temps qui lui parut très longue, et qui donc l'était, car n'existait rien d'autre que la souffrance et la tempête de brume, ces sons restèrent la seule réalité extérieure. Qui il était et où il se trouvait, il n'en avait aucune idée. Et d'ailleurs, il s'en moquait éperdument. Il aurait voulu être mort. Mais dans le brouillard imbibé de douleur qui lui remplissait l'esprit, comme une nuée d'orage d'été, il ignorait le désirer. Comme le temps passait, il devint conscient de périodes sans douleur, revenant régulièrement. Et pour la première fois depuis qu'il avait émergé des ténèbres totales ayant précédé la brume, il lui vint une pensée autre que celle liée à sa situation actuelle, quelle qu'elle fût. L'image d'un poteau brisé qui dépassait autrefois du sol à River Beach. Son père et sa mère l'avaient souvent amené à cette plage lorsqu'il était enfant. Il avait toujours absolument tenu à ce que l'on étendît la couverture à un endroit précis, d'où il pouvait surveiller d'un œil ce poteau qui évoquait pour lui le croc unique de quelque monstre enterré. Il aimait à rester assis et à voir l'eau monter et recouvrir le poteau. Puis, des heures plus tard, une fois mangé les sandwichs et la salade de pommes de terre, une fois bu les dernières gouttes de Cool Head qui restaient au fond de la thermos de son père, juste avant que sa mère ne dît qu'il était temps de plier bagages et de rentrer à la maison, le haut du poteau pourrissant réapparaissait. Simple point éphémère entre deux vagues, au début, puis de plus en plus visible. le temps de déposer les ordures dans le gros baril avec « Gardons notre plage propre » inscrit au pochoir dessus, de ramasser les jouets de plage dispersés par Polly. C'est mon nom, Polly. Je m'appelle Polly. Et ce soir, maman mettra de la crème Johnson spéciale bébé sur mes coups de soleil, pensa-t-il au milieu de l'orage dans lequel il vivait maintenant. Et de replier la couverture, le poteau était presque entièrement découvert, sa surface noirâtre et gluante entourée de lambeaux d'une écume savonneuse. C'était la marée, avait tenté de lui expliquer son père, mais il avait toujours pensé que c'était le poteau. La marée allait et venait, le pilier demeurait. Simplement, il y avait des moments où l'on ne pouvait pas le voir. Sans poteau, pas de marée. Ce souvenir se mit à tourner et à tourner comme une mouche paresseuse le rendant fou. Il tâtonna à la recherche de la signification de cette image, mais pendant un long moment, les sons l'interrompirent. Fidèle, absolument, tout lu, miratri, numéro un. Parfois les sons s'arrêtaient, parfois lui s'arrêtait. Son premier souvenir, véritablement net de ce maintenant, le maintenant à l'extérieur de la tempête de brume, fut celui de cet arrêt, de cette impossibilité d'inhaler une nouvelle bouffée d'air. Ce qui était bien, parfait, tout à fait au poil. Il pouvait endurer un certain niveau de douleur, mais trop, c'était trop. Et il était content de quitter la partie. Puis une bouche vint bâillonner la sienne. Une bouche de femme. Impossible de s'y tromper en dépit de ses lèvres dures et sèches. Et cette bouche souffla son air dans la sienne, forçant un passage dans sa gorge, gonflant ses poumons. Et lorsque les lèvres dures se retirèrent, il sentit pour la première fois l'odeur qui émanait de sa gardienne. Il la sentit en exhalant l'air qu'elle avait forcé en lui comme un homme pourrait forcer par violence une femme. Une horrible puanteur faite d'un mélange de biscuits à la vanille, de crème glacée au chocolat, de jus de poulet et de ces pâtisseries spongieuses à base de beurre de cacahuète. Il entendit une voix s'égosiller. « Respirez, bon sang ! Respirez, Paul !» De nouveau, les lèvres le bâillonnèrent. De nouveau, de l'air se força un passage dans sa gorge. Impression de succion et de vent humide, comme à la suite du passage d'un train rapide dans un souterrain, avec son cortège de feuilles de journaux et d'emballages de bonbons. Puis, les lèvres se retirèrent et il pensa « Pour l'amour du ciel, ne le laisse pas ressortir par le nez. » Mais il ne put rien y faire. Et oh, cette puanteur, cette puanteur, cette putain de puanteur ! Respirez, bon sang, bonsoir ! Cria la voix invisible. Et il pensa, d'accord, tout ce que vous voudrez, mais s'il vous plaît, ne recommencez pas, surtout pas cette infection. Et il essaya. Mais avant d'avoir pu réellement commencer, les lèvres de la femme bâillonnèrent encore les siennes, des lèvres aussi sèches et mortes que des lanières de cuir salé. Et de nouveau son haleine le viola. Cette fois, quand la bouche s'éloigna, il ne laissa pas repartir l'air, mais la chassa violemment dans une gigantesque exhalaison, l'expulsa, attendit que sa poitrine invisible se soulevât de nouveau d'elle-même, comme elle l'avait fait toute sa vie sans qu'il eût à intervenir. Comme rien ne se passait, il inhala dans un énorme hoquet sifflant. De nouveau, il respirait tout seul, haletant le plus vite possible pour se débarrasser du goût et de l'odeur de la femme. Jamais l'air normal n'avait eu parfum aussi suave. Il commença à s'enfoncer de nouveau dans la brume, mais avant que ne disparût tout à fait le monde crépusculaire, il entendit la femme qui grommelait. « Oh là là !» On en est passé bien près cette fois. Pas assez près, pensa-t-il, un instant avant de s'endormir. Il rêva du poteau. Un poteau si réel qu'il eut l'impression qu'il lui aurait suffi de tendre la main pour effleurer sa courbure vert-noir et fissurée. Lorsqu'il retomba dans son état précédent de demi-conscience, il fut capable de faire le rapprochement entre le poteau et sa situation actuelle. Elle semblait flotter dans sa main. La douleur n'était pas comme la marée. Telle était la leçon du rêve qui était en réalité un souvenir. La douleur paraissait simplement aller et venir. Elle était comme le poteau, parfois recouverte et parfois visible, mais toujours présente. Lorsqu'elle ne le tourmentait pas au milieu de la profonde grisaille pétrifiante de son nuage, il était stupidement reconnaissant, sans toutefois s'y tromper. Elle se tapissait toujours là, attendant de revenir. Et en fait, il y avait deux poteaux, et non un seul. La douleur était ses poteaux, et cela faisait longtemps qu'en lui quelque chose savait, sans qu'il en eût conscience, que ses chicots déchiquetés étaient ses propres jambes en lambeaux. Mais il lui fallut encore un long moment avant de pouvoir finalement rompre l'écume de salive séchée qui lui scellait les lèvres et d'être capable de coasser « Où suis-je ?» à la femme assise à côté de son lit, un livre à la main. Le nom de l'auteur était Paul Sheldon. Il le reconnut comme le sien et n'en éprouva nulle surprise. « Side the Winder, Colorado », dit-elle, quand il eut réussi à parler. « Mon nom est Annie Wilkes, et je suis... Je sais, la coupa-t-il. Mon admiratrice numéro un. » « Oui, » répondit-elle avec un sourire, « c'est exactement ce que je suis. » Ténèbres, puis douleur et brume, puis prise de conscience que, bien que la souffrance fût constante, elle se trouvait de temps en temps enterrée par un difficile compromis qu'il pensait être un soulagement. Premier souvenir réel. Il s'arrête, et le viol de l'haleine empuantie de la femme le ramène à la vie. Deuxième souvenir réel. Des doigts enfournent quelque chose dans sa bouche à intervalles réguliers, comme des gélules contact. Simplement, comme il n'avait pas d'eau dans la bouche, elles y restaient effondées avec un goût abominablement amer, un peu comme celui de l'aspirine. Il aurait bien aimé cracher pour se débarrasser de cette amertume, mais il n'était pas assez fou pour cela. Car c'était ce goût amer qui faisait monter la marée au-dessus des poteaux. Des poteaux. Ce sont des poteaux. Il y en a deux. D'accord. Bon, maintenant, ferme-la, simplement, ferme-la. Chut. Et paraissait les faire disparaître pendant quelque temps. Ces événements se produisaient toujours à de grands intervalles. Puis, alors que la douleur commençait non pas tant à reculer qu'à s'éroder, comme avait pu s'éroder aussi le poteau de River Beach, songea-t-il, car rien n'est éternel, bien que l'enfant qu'il avait été eût traité par le mépris une telle hérésie, les objets extérieurs se mirent à empiéter de plus en plus rapidement sur lui, jusqu'à ce que le monde objectif, avec tout son poids de souvenirs, d'expériences et de préjugés, se fût passablement bien remis en place. Il s'appelait Paul Sheldon et écrivait deux sortes de romans, ceux qui étaient bons et ceux qui se vendaient bien. Marié deux fois, divorcé deux fois. Il fumait trop, ou fumait naguère trop, avant tout cela, quoi que fût ce tout cela. quelque chose d'épouvantable lui était arrivé. Mais il était toujours en vie. Le nuage d'un gris menaçant se dissipait de plus en plus vite. Il allait encore s'écouler un certain temps avant que son admiratrice numéro un ne lui apportât la vieille Royal ferraillante, avec son grand sourire édenté et sa voix à la Ducky Daddles. Mais Paul avait déjà compris depuis un bon moment qu'il se trouvait dans un sacré pétrin. La partie de son esprit douée de prescience la vit avant même de savoir qu'il la voyait, et dut certainement la comprendre avant de savoir qu'il la comprenait. Sinon, pourquoi lui aurait-il associé des images aussi sévères et menaçantes ? Chaque fois qu'elle venait dans la chambre, il pensait à ces idoles qu'adore dans les romans de H. Rider Haggard, les tribus africaines superstitieuses, ainsi qu'à des pierres, à un destin funeste. Se représenter Annie Wilkes sous la forme d'une idole africaine sortie tout droit des mines du roi Salomon ou d'elle était à la fois grotesque et étrangement juste. Grande comme une jument, c'était une femme qui, en dehors du renflement volumineux mais guère accueillant de sa poitrine, semblait ne présenter aucune courbe féminine, aucune rondeur définie aux hanches, aux fesses, ni même aux mollets. Sous l'interminable succession de jupes en lainage qu'elle portait dans la maison, elle disparaissait dans une pièce invisible pour enfiler des jeans avant d'accomplir les corvées à l'extérieur. Elle avait un corps monumental, mais dépourvu de générosité. Elle donnait une impression d'engorgement et de butoir plutôt que d'orifice accueillant, ou même simplement d'espaces ouverts, de zones de hiatus. Plus que tout, il se dégageait d'elle une impression perturbante de compacité, comme si elle n'avait possédé ni vaisseau sanguin, ni même organes internes, comme s'il n'y avait eu que de Annie Wilkes, bien solide, d'un flanc à l'autre et des pieds à la tête de cette femme. Il éprouvait de plus en plus la conviction que ses yeux, qui apparemment bougeaient, étaient en réalité peints sur elle, et qu'il ne se mouvait pas davantage que ses yeux de certains portraits qui paraissaient vous poursuivre partout où vous allez dans la pièce où les tableaux sont accrochés. Il lui semblait que s'il avait placé deux doigts en V et tenté de les enfoncer ainsi dans ses narines, il se serait heurté au bout d'un centimètre à quelque chose de solide, quoique peut-être de légèrement souple. Que même le cardigan gris qu'elle portait en permanence, tout comme ses jupes informes, voire même ses jeans pour gros travaux, faisait partie de ce corps fibreux, compact, qu'aucun réseau ne parcourait. Si bien que cette impression d'idole, sortie tout droit de quelque roman échevelé, n'avait en réalité rien de surprenant. Comme une idole, elle ne donnait qu'une chose. Un sentiment de malaise qui s'accroissait progressivement et tournait à la terreur. Comme une idole, elle prenait tout le reste. Non, attendez, c'est tout à fait injuste. Elle donnait bien quelque chose. Ces gélules amères qui faisaient monter la marée au-dessus des poteaux. Les gélules étaient la marée. Annie Wilkes, la présence lunaire qui les entraînait dans sa bouche, comme une vague rejette des espars sur une plage. Elle les lui apportait toutes les 6 heures, n'annonçant tout d'abord sa présence que par les 2 doigts qu'elle enfonçait dans sa bouche, et il ne tarda pas à les sucer avec enthousiasme en dépit de l'amertume, puis par sa silhouette mal fagotée que complétait d'ordinaire, sous son bras, un exemplaire en édition de poche de l'un de ses romans. La nuit, elle lui apparaissait dans une robe rose éraillée, le visage brillant d'une crème quelconque. Il aurait pu en énumérer les principaux ingrédients sans difficulté, bien que n'ayant jamais vu le flacon d'où elle provenait, tant était forte l'odeur moutonnière de la lanoline, et le secouer pour le tirer d'un sommeil aux rêves pâteux, épais, fétides, les gélules au creux de la main, une lune vérolée nichée dans un coin de fenêtre au-dessus de l'une de ses épaules de déménageur. Au bout d'un moment, alors que son inquiétude était devenue trop manifeste pour pouvoir être ignorée, il découvrit enfin le nom du produit dont elle le gavait. Il s'agissait d'un analgésique avec une forte composante de codéine, le Novril. Et si elle ne devait lui apporter le bassin que rarement, cela tenait non seulement à ce que son régime était entièrement constitué de liquide et de gelée, au début, tandis qu'il était dans le nuage, elle l'alimentait par intraveineuse, mais aussi à ce que le Novril avait la constipation comme effet secondaire. Mais il en avait un autre, nettement plus sérieux. Les risques d'insuffisance respiratoire chez les patients fragiles. Paul n'était pas particulièrement fragile, même s'il était gros fumeur depuis près de 20 ans. Mais sa respiration ne s'en était pas moins arrêtée au moins une fois. Le même accident s'était peut-être produit, sans qu'il en eût conscience, alors qu'il gisait encore dans la brume, le jour où elle lui avait fait le bouche-à-bouche. C'était peut-être seulement un accident, comme il en arrive. Mais il en vint plus tard à soupçonner qu'elle avait failli le tuer involontairement à cause d'une dose trop forte. Elle n'en savait pas autant qu'elle le croyait sur ce qu'elle faisait. Ce n'était là que l'un des aspects d'Annie qui avait le don de le terrifier. Il découvrit trois choses presque simultanément. Environ 10 jours après avoir émergé du nuage sombre. La première était que Annie Wilkes possédait de vastes réserves de Novril. Elle disposait en réalité de vastes réserves de toutes sortes de médicaments. La deuxième, qu'il était accro au Novril. Et la troisième, que Annie Wilkes était une dangereuse cinglée. Les ténèbres avaient précédé la douleur et le nuage de tempête. Il commença à se souvenir de ce qui avait précédé les ténèbres quand elle lui expliqua ce qui lui était arrivé. Ce fut peu de temps après avoir posé la traditionnelle question du dormeur qui se réveille désorienté, à quoi elle avait répondu qu'il se trouvait dans la petite ville de Sidewinder, au Colorado. Elle avait ajouté avoir lu chacun de ses 8 romans au moins 2 fois, et dévorer ses préférés, à savoir la série des Miséries, 4, 5, sinon 6 fois. Elle n'émettait qu'un vœu, qu'il pût les écrire plus rapidement. Elle lui avoua qu'elle avait eu toutes les peines du monde à croire que son patient était bien le véritable Paul Sheldon, après avoir lu sa carte d'identité dans son portefeuille. « Au fait, où est mon portefeuille ? » demanda-t-il. « Je l'ai placé en lieu sûr, » répondit-elle. Son sourire se transforma soudain en une expression de méfiance obtuse, qui ne lui plut pas beaucoup. Impression de découvrir une profonde crevasse, presque dissimulée par les fleurs de l'été, au milieu d'une souriante et joyeuse prairie. « Vous ne croyez tout de même pas que je vous ai volé quelque chose, non ?»« Non, bien sûr que non. C'est simplement que... » C'est simplement que le reste de ma vie s'y trouve, songea-t-il. Ma vie à l'extérieur de cette pièce, en dehors de la douleur, en dehors de cet apparemment étirement du temps semblable à ces longs filaments de chewing-gum que font les gosses lorsqu'ils s'ennuient. Parce que c'est ainsi que ça se passe dans l'heure qui précède l'arrivée des gélules. Simplement quoi, monsieur l'homme ? Insista-t-elle. Et il vit avec inquiétude que le regard rétréci devenait de plus en plus sombre. La crevasse s'élargissait, comme si un séisme grondait en dessous de son front. Il entendait le gémissement aigu et régulier du vent à l'extérieur. et lui vint soudain à l'esprit cette image. Elle le soulevait et le balançait sur son épaule, sur laquelle il restait posé comme un sac de toile sur un mur de pierre, et l'emportait à l'extérieur pour le déposer dans un banc de neige. Il allait geler à mort, mais avant cela, ses jambes l'élanceraient et il crierait.
C'est simplement parce que mon père m'a toujours dit de faire attention à mon portefeuille, répondit-il, surpris de la facilité avec laquelle il avait menti. Son père s'était fait un principe de ne prêter attention à Paul que dans la mesure où c'était strictement nécessaire, mais autant qu'il s'en souvenait, ne lui avait jamais donné le moindre conseil de toute sa vie. Le jour du 14e anniversaire de Paul, Roger Sheldon lui avait tendu un préservatif Red Devil dans un emballage en alu. « Mets ça dans ton portefeuille », avait-il simplement dit. « Et si jamais tu t'excites un peu trop pendant une séance au drive-in, prends quand même une seconde avant de l'être un peu trop et enfile ce truc-là. Il y a déjà trop de bâtards de par le monde et je ne tiens pas à te voir t'engager à 16 ans. »
Et maintenant Paul en rajoutait. « Je crois qu'il me l'a répété si souvent que ça m'est resté définitivement dans le crâne. Si je vous ai offensé, j'en suis sincèrement désolé. » Elle se détendit, sourit. La crevasse se referma. Les fleurs d'été se remirent de nouveau à hocher joyeusement la tête. Il s'imagina brusquement, enfonçant la main dans ce sourire, et n'y rencontrant rien, sinon des ténèbres élastiques.
« Il n'y a pas de mal, il est à l'abri.
Attendez, j'ai quelque chose pour vous. » Quand elle revint, elle tenait un bol de soupe fumant à la main. Des légumes flottaient à la surface.
Il ne put en avaler beaucoup, mais mangea cependant davantage qu'il ne l'aurait cru tout d'abord. Elle parut contente. Pendant qu'il prenait des forces, elle lui raconta ce qui s'était passé et les choses lui revinrent au fur et à mesure qu'elle parlait. Il se dit que c'était bien de savoir comment il s'était retrouvé avec les jambes en morceaux, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il l'apprenait qui le mettait mal à l'aise. Il avait l'impression d'être un personnage dans un roman ou une pièce de théâtre, un personnage dont l'histoire n'était pas racontée comme des événements vrais, mais créés, comme dans une fiction.
Elle était descendue à Sidewinder avec le 4x4 afin de ramener de la nourriture pour les animaux et de faire quelques courses à l'épicerie. Également pour regarder les nouveautés en livre de poche, au Wilson's Drug Center. C'était le mercredi, cela faisait près de 2 semaines. Et les nouveautés arrivaient toujours le mardi. « Je pensais réellement à vous, » dit-elle en lui glissant une cuillère de soupe dans la bouche, puis en lui essuyant les commissures avec un mouchoir d'un geste professionnel. « C'est ce qui rend la coïncidence si extraordinaire, vous comprenez ? J'espérais enfin trouver Misery's Child en poche, mais malheureusement, il n'y était pas. » Une tempête menaçait, ajouta-t-elle. Mais jusqu'à midi, les types de la météo avaient affirmé, péremptoirement, qu'elle se dirigeait vers le sud, c'est-à-dire vers le Nouveau-Mexique et les monts Sangre de Cristos.
« Oui, » répondit-il, les souvenirs lui revenant au fur et à mesure.
« C'est ce qu'ils ont dit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la route. » Il essaya de bouger les jambes. Le seul résultat fut un violent élancement douloureux et il poussa un gémissement.
« Surtout, ne faites pas ça, » dit-elle.
« Si vous commencez à faire bavarder vos deux jambes, Paul, il n'y aura pas moyen de les arrêter. Et je ne peux pas vous donner d'autres gélules avant 2 heures. Je vous en donne d'ailleurs déjà trop. »
« Pourquoi ne suis-je pas à l'hôpital ?» Telle était la question qu'il aurait voulu poser, mais il n'était pas sûr d'en avoir envie, et encore moins qu'elle aurait aimé y répondre. Pas pour le moment, en tout cas. Au magasin d'aliments pour animaux, Tony Roberts m'a dit que je ferais mieux de ne pas traîner et de rentrer avant le commencement de la tempête, et je lui ai répondu « À quelle distance sommes-nous de cette ville ?» la coupa-t-il. « Un bout de chemin, » fit-elle vaguement, détournant les yeux vers la fenêtre.